7 milliards de voisins, on est ensemble.
Tout le monde est voisin.
7 milliards de voisins, Chantal Laureau.
Bonjour, bienvenue dans 7 milliards de voisins, l'école à la radio. Et E accent aigu ou E-E-R, comment choisir? Nous avons tous un jour fait la faute, jusqu'à ce qu'on nous donne des astuces pour ne plus nous tromper. C'est ce que va faire aujourd'hui l'enseignante Laurence Girard-Guilaine. Dans la deuxième partie de l'émission, la comédienne Héloïse Auria nous racontera Joujou et le pêcheur, un conte mandingue de tradition orale. Et puis la psychopédagogue Joëlle Alarcon nous expliquera à nous parents comment encourager et favoriser les efforts de nos enfants. Une émission réalisée en direct avec une équipe en télétravail, Cécile Lavolo, Sigrid Azeroual, Romain Dubrac et en studio, Nicolas Benita et moi-même. Nous attendons vos réactions, vos questions, vos messages, écrits ou audio sur WhatsApp au 33 1 84 22 71 71. Et vous aussi les enfants, n'hésitez pas à nous écrire, à nous envoyer des poèmes ou à nous poster des chansons. Vous connaissez maintenant le numéro par cœur, 33 1 84 22 71 deux fois.
7 milliards de voisins.
On est tout proches.
On est ensemble.
Ça reste entre nous.
7 milliards de voisins et la planète se parle.
Je m'appelle Coton Harris. J'ai 9 ans. Voici mon poème. Ma gratitude, père, je serai ton père. Mère, je serai ta mère. Mère et Père, si généreux, arrosez mon âme de vos prières bénites, allumez mon intelligence de votre sagesse, domptez mes caprices par votre amour, donnez-moi ce que demain je vous donnerai, offrez-moi tout ce que de moi vous recevrez. Donnez à tout enfant son enfance, mère et père, c'est généreux. Père, je suis ton repère. Mère, je suis ton point de mine. Gildas Poinsou.
Salut 7 milliards de voisins, salut Chantal Loro qui nous a trop manqué. Je m'appelle Cédipon à Goma. J'aimerais partager avec vous un petit poème que j'ai suivi en 4e primaire, intitulé « Au pays d'alphabet ». Au pays d'alphabet, les lettres s'ennuyaient. Chacune dans son coin, inutile. Elle ne savait que faire, elle ne savait quoi dire. Mais un jour, les « e », les « a », les « u » se rencontrèrent. « Oh » dit-elle ensemble. « Oh » s'exclamèrent les autres. Mais les « c », les « r », les « i » poussèrent un cri. Signe qu'ils avaient compris. Et c'est ainsi que tout a commencé.
Sept milliards de voisins.
L'école à la radio.
Laurence Girard-Guilaine, bonjour.
Bonjour Chantal, bonjour à tous.
Laurence, on a reçu des messages après votre leçon de mardi sur les pourcentages. Innocent de Lubumbashi nous écrit « Dans notre famille, nous sommes 15, dont 4 filles et 11 garçons. Donc, le pourcentage de filles dans ma famille sera de 4 fois 100 divisé par 15 égale 26,66%. »
Parfait.
Et Noé de Goma nous écrit « Le cours de Laurence sur les pourcentages était formidable. » Voilà. Donc, on va essayer aujourd'hui de faire à nouveau un cours formidable. Et Laurence, vous allez nous parler aujourd'hui français et orthographe. Quand français et orthographe deviennent un jeu, quand doit-on écrire et E accent aigu et E-E-R, vous allez nous l'expliquer. Et certains de nos auditeurs ont besoin de vos lumières. Gilbert de Bafoussam nous écrit « J'ai appris la règle à l'école primaire, mais ça m'échappe toujours et je ne suis pas le seul à faire la faute autour de moi. » Christian de Boucavou nous écrit « Je ne sais jamais quand il faut mettre l'un ou l'autre. » Qu'est-ce que vous leur répondez, Laurence ?
Je leur réponds qu'aujourd'hui, je vais leur indiquer un moyen rapide et infaillible pour qu'ils choisissent sans plus jamais se tromper entre E et ER. Alors pour ça, on va commencer par une petite leçon de grammaire et ensuite, je leur donnerai l'astuce magique. on finira, pour se détendre, par un petit jeu de langage. Donc pour commencer, je vous propose un petit texte dans lequel on entend souvent le son « et ». Vous allez donc essayer de retrouver toutes les façons de faire ce « et ».
Et pour vous aider les enfants, on peut vous dire que vous allez trouver 6 façons différentes d'écrire le son « et ». Laurence, on vous écoute.
Alors, la fée au long nez. La petite fée est arrivée bien mal fagotée. Elle s'est tout de suite fait remarquer. Son chemisier était mal repassé, au pied, elle avait des chaussures trouées et sa jupe était déchirée. Elle a dû aller se changer. Elle s'est joliment habillée, elle a noué ses cheveux, puis elle a commencé à chanter. Elle nous a émerveillés. Alors,
on va peut-être relire une deuxième fois ce texte. Hein.
D'accord. La fée au long nez. La petite fée est arrivée bien mal fagotée. Elle s'est tout de suite fait remarquer. Son chemisier était mal repassé. Au pied, elle avait des chaussures trouées et sa jupe était déchirée. Elle a dû aller se changer. Elle s'est joliment habillée, elle a noué ses cheveux, puis elle a commencé à chanter. Elle nous a émerveillés. Avez-vous trouvé tous les « et » différents ?
Alors moi, j'ai trouvé le « et », « e » accent aigu, du mot « fée ».
Oui, tout à fait. Et il y a aussi le « et », « e », « t ».
Ah oui, on le rencontre souvent, hein, puisque c'est une conjonction de coordination.
Oui, vous avez dû également trouver le « et », « ez », le « et » de « nez ».
Et le « et », « ed », de « pied ».
Oui, et puis il y a aussi le « et », « es ». Que l'on trouve souvent avec le déterminant les ou des, par exemple. Il y a aussi le et, er, qu'on retrouve dans le verbe remarquer, par exemple, ou dans le chemisier. Le son et, on s'aperçoit qu'on le rencontre notamment souvent dans les verbes. On a en effet les verbes du premier groupe, qui se terminent par et. On les écrit parfois avec er, avec ez, ou avec e accent aigu.
Et c'est là qu'il faut trouver la bonne terminaison.
Oui, quand un verbe est conjugué avec le pronom personnel « vous », bah, c'est assez facile, vous mettez « vous » plus « ez », toujours « ez ». Mais sinon, c'est vrai que le plus souvent, on se demande « est-ce que je dois écrire « e » accent aigu ou « r » ?
Et c'est en effet la question que se pose un grand nombre d'auditeurs.
Oui, alors d'un point de vue grammatical, on écrit « E accent aigu quand il s'agit du participe passé. Donc avec un temps composé, comme le passé composé ou le plus que parfait par exemple. Nous avons écouté RFI, c'est une phrase au passé composé, avec donc écouté et comme participe passé. Mais le participe passé, il est aussi employé comme adjectif. Par exemple, ce plat préparé est bien appétissant. Donc préparé, ici c'est un adjectif, donc préparé est. Enfin, je dis est, mais le participe passé comme l'adjectif s'accorde avec le nom, donc ça pourrait aussi bien être ee, ou es, ou encore ees.
Mais ça, on le verra, Laurence, dans une autre leçon. Est-ce que vous avez d'autres exemples où on écrit et, e accent aigu ?
Oui, par exemple, je suis allée. Et, parce que c'est un participe passé, ou et eux si je suis une fille, un pantalon usé, pareil, et, e accent aigu, encore du poulet grillé, e accent aigu, il y en a énormément. Et donc, par contre, on écrit er quand c'est un verbe à l'infinitif. Et il y a deux cas principaux en fait. D'abord, quand deux verbes se suivent, le deuxième est toujours à l'infinitif.
Comme par exemple, les enfants vont travailler.
Oui, là c'est le verbe aller et ensuite le verbe travailler. Donc aller plus travailler, on met travailler er. On écrit aussi er après une préposition. À, de, pour, parce que le verbe est à l'infinitif. Par exemple, si on dit « il est prêt à travailler ». travailler, s'écrit ER aussi dans ces cas-là.
Donc tout ça, c'est quand on est très fort, qu'on connaît bien ses règles multiples et qu'on maîtrise parfaitement la grammaire. Le problème, c'est que quand on écrit, on n'a pas forcément le temps de se poser toutes les questions.
Exactement, Chantal. C'est bien pour ça qu'on va utiliser un moyen très simple, mais infaillible. On va remplacer le verbe en « est », souvent un verbe du premier groupe d'ailleurs, par un verbe du troisième groupe, comme par exemple le verbe « vendre ». Parce que lui, il a l'avantage d'avoir un participe passé très différent, puisque le participe passé de vendre, c'est vendu.
Donc, on remplace par vendre ou vendu, c'est bien ça?
Oui, on remplace le verbe en « est » par vendre ou vendu. Donc, si on peut remplacer le verbe par vendre, c'est l'infinitif, donc on écrit « er ». Et si on peut remplacer par vendu, on écrit «
Vous nous donnez un exemple?
Oui, par exemple, si je veux écrire. Quand je me suis levée, j'ai failli tomber. Si on choisit la méthode rapide, on peut dire quand je me suis vendue.
Oui, parce qu'en effet, on ne peut pas dire quand je me suis vendre.
Oui, vendu, donc, c'est un participe passé, c'est le participe passé du verbe vendre. Donc, le participe passé de lever, c'est « et ». Donc on va écrire « je me suis levé et ». E accent aigu. Puis après, la fin de la phrase, c'était « j'ai failli vendre ». J'ai failli tomber, j'ai failli vendre. Vendre est un infinitif, donc j'ai failli tomber, ER. Donc, quand je me suis levé et j'ai failli tomber, ER. Alors bien sûr, on ne s'attarde pas sur le sens, mais juste sur le fait de savoir si oui ou non, la phrase, elle pourrait se dire.
Voilà, vous nous donnez encore un exemple avant de faire un exercice avec les enfants?
On y va. Si je vous dis, les enfants ont aidé leur maman, comment allez-vous écrire « aider » ?
Alors, on essaye donc de remplacer « aider » par « vendre ». Donc ça donne, les enfants ont vendre ou les enfants ont vendu ? Donc évidemment, oui, c'est les enfants ont vendu leur maman.
En effet, c'est la phrase qui est correcte.
Même si ce n'est pas une très bonne idée.
De vendre une maman, non. Donc aider s'écrit E accent aigu. Les enfants ont aidé E accent aigu. Maintenant, une autre phrase. Les enfants vont aider leur maman.
Donc les enfants vont vendre leur maman.
Ça se dit. Donc, le verbe est à l'infinitif.
Et alors, aider,
et alors
voilà, aider va s'écrire avec ER.
On est bien d'accord. Ça se dit, mais ça ne se fait pas.
Bon, alors, on espère que les enfants ont compris maintenant.
Je vais donc vous dire, les enfants, des phrases dans lesquelles vous entendrez un verbe qui se termine par le son « et ». On applique la méthode rapide. Chaque fois, vous essaierez de le remplacer par « vendre ». Si c'est possible, vous ferez un petit rond. Sinon, vous ferez une croix. Vous n'aurez qu'à commencer à gauche et les aligner. Ce sera plus facile pour corriger.
Alors, c'est parti.
Première phrase. Il faudra gagner sa confiance. Gagner. Comment écrirez-vous gagner? Est-ce qu'on peut le remplacer par vendre?
Donc, si oui, on fait un rond. Sinon, on fait une croix. C'est bien ça, Laurence?
Oui, c'est bien ça. Donc, vendre une croix et vendu un rond. Deuxième phrase. Ce matin, il a partagé son repas. Partager.
Donc, est-ce qu'on peut remplacer par vendre?
Ou par vendu. Voilà.
Ou par vendu.
Troisième phrase. Pour apprendre à mieux parler. Donc, parler. Il faut s'entraîner. Donc là, c'est s'entraîner. Quatrième phrase. J'avais pourtant compté tous mes cailloux. Compter. Comment allez-vous écrire compter? On remplace par vendre, on fait un rond. Par vendu, on fait une croix. Et enfin, dernière phrase. J'ai dû en égarer quelques-uns. Égarer. pas corriger ?
On corrige. Alors, donc, on en revient à la première phrase. Il faudra gagner sa confiance. Donc, si on remplace, il faudra vendre.
Voilà, donc c'est un infinitif. Donc, gagner, il faut écrire ER.
Voilà, et il fallait mettre un petit zéro.
Voilà, un petit rond, petit zéro, tout à fait. Deuxième phrase, ce matin, il a partagé son repas.
Alors, ce matin, il a vendre ? Bah non, il a vendu.
Il a vendu. Donc, effectivement, c'est un participe passé. Alors, partager s'écrit avec E accent aigu à la fin. Et il fallait mettre une croix.
Troisième phrase.
Pour apprendre à mieux parler.
Pour apprendre à mieux vendre.
Donc, c'est un infinitif. Donc, parler, ER. Il fallait mettre un rond.
Quatrième phrase.
Il faut s'entraîner.
Il faut vendre.
Donc c'est un infinitif, s'entraîner, ER. Il fallait mettre un rond.
Cinquième phrase.
J'avais pourtant compté tous mes cailloux.
J'avais pourtant vendu.
Donc c'est un participe passé. Alors compter et E accent aigu.
Sixième phrase. Voilà, sixième phrase.
J'ai dû en égarer quelques-uns.
J'ai dû en vendre.
Donc, on faisait un petit rond, puisqu'effectivement, c'est un infinitif. J'ai dû en égarer quelques-uns, égarer ER.
Alors les enfants, le code que vous auriez dû trouver est donc petit rond X, petit rond X, petit rond. Voilà, j'espère que vous avez bien suivi et bien compris. On peut peut-être ajouter, Laurence, que au lieu d'employer vendre, on peut aussi employer un autre verbe qui se termine avec ce son dre ou r. Par exemple, courir, ça marche aussi avec courir.
Courir, ça marche aussi. Dans ces cas-là, ce serait courir, j'ai couru. Ou peindre, c'est aussi un verbe qui est souvent utilisé. Peindre, j'ai peint.
D'accord. Donc, ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est que pour aller vite, il faut essayer de remplacer le verbe en « et » par « vendre » ou par « vendu » ou par « courir » ou par « couru ». Et si on peut le remplacer par « vendre » ou « courir », on écrit « er ». Si on peut remplacer par « vendu » ou « couru », eh bien, on écrit « e » accent aigu. C'est bien ça.
Exactement. Tout à fait. Maintenant, vous avez bien compris, pour que vous puissiez vous détendre un peu, vous allez faire un petit jeu qui va surtout vous faire travailler le vocabulaire.
En effet, à l'école, même quand on joue, on travaille toujours.
Oui, ce jeu s'appelle le lipogramme, qui vient du grec lipo, qui signifie enlever, laisser, et gramma, qui signifie lettre. Il va donc falloir produire une phrase ou un texte où on a enlevé une lettre de l'alphabet. Moi, j'ai choisi de vous demander d'écrire un lipogramme sur ce que vous pensez de l'émission 7 milliards de voisins en sachant que la lettre qui a été avalée est le O. Par exemple, si je veux dire « j'adore écouter la radio chaque jour ».
Il va falloir changer « adore »,« écouter », »,« radio » et « jour ». Waouh, quatre mots, c'est difficile.
C'est ça, enlever les quatre mots qui contiennent la lettre O. C'est pour ça que je vous dis que vous allez travailler le vocabulaire, car vous allez trouver d'autres mots, devoir trouver d'autres mots qui signifient la même chose. Et ce n'est pas forcément ce qui vous viennent spontanément à l'esprit. Donc, soit vous trouvez des synonymes, soit une autre façon de faire votre phrase.
Et vous pouvez même utiliser un dictionnaire pour vous aider.
Oui, bien sûr. Donc, par exemple, pour remplacer la phrase... J'adore écouter la radio chaque jour. Moi, j'ai trouvé, à la place de j'adore, j'aime vraiment. À la place d'écouter, me brancher. La radio, j'ai nommé RFI. Et chaque jour, j'ai dit chaque matin. Donc, j'aime vraiment me brancher sur RFI chaque matin.
Laurence, on va terminer avec un petit exercice d'entraînement sous la forme d'une dictée.
Oui, je sais que les enfants aiment beaucoup faire des dictées. Donc, je vais leur lire un petit texte. Ils vont écrire en faisant bien attention de choisir vendre ou vendu pour la terminaison de leur verbe. On y va ?
On y va.
Ce matin, virgule. Papa est allé. Se promener au marché. Ce matin, papa est allé se promener au marché. Il a rapporté des tomates et des concombres. Maman a tout préparé. Et moi, j'ai aidé à les couper. J'ai aidé à les couper en petits morceaux. Point. J'espère que vous saurez les apprécier. J'espère que vous saurez les apprécier et prendre le temps de déguster. Point. Comme on a tout mangé, demain, il retournera en chercher. Point d'exclamation.
Voilà, donc on rappelle que à chaque fois que les enfants vous avez entendu le son et, il fallait vous poser la question, est-ce que je peux remplacer par vendre ou par vendu? Voilà, si c'était par vendre, eh bien, il fallait mettre ER. Si c'était par vendu, il fallait mettre E accent aigu. On va peut-être relire encore une
fois. D'accord, et puis on peut peut-être corriger le début.
D'accord.
Les premiers verbes. Ce matin, virgule. Papa est allé se promener au marché. Point. Il a rapporté des tomates et des concombres. Point. Maman a tout préparé. Et moi, j'ai aidé à les couper en petits morceaux. Point. J'espère que vous saurez les apprécier et prendre le temps de déguster. Point. Comme on a tout mangé, demain, il retournera en chercher. Point d'exclamation.
Voilà. Maintenant, on passe à la correction.
On va corriger la première phrase déjà. Alors, ce matin, il y avait déjà une première difficulté parce que on pouvait choisir entre le ce, ce et le ce, se. Donc, ce, ce, puisque c'est, on peut le remplacer par le matin. Le matin, M, A, T, I, N. Et pour s'aider, on peut se dire que un mot de la famille de matin, c'est matinée. Donc matin, papa, c'est un mot assez facile, tous les enfants savent l'écrire, est allé. Donc c'est le verbe aller au passé composé. Donc est, E-S-T. Et aller, c'est là qu'on se posait la question, vendre ou vendu. Ce matin, papa est
vendu.
Voilà. Donc, allez et. A, deux L, et. Se promener. Et là, on ne pouvait pas remplacer ce par le. Donc, se, S, E. promener, P-R-O-M-E-N, et là, E-O-E-R.
E-R, puisqu'on pourrait dire « Papa est allé se vendre ».
Très bien, se promener, E-R, au marché, donc O-A-U, et plus loin, marché, M-A-R-C-H-E. Et là, le marché, ce n'est pas un verbe, alors on ne s'occupe pas de vendre ou de vendu.
On passe à la deuxième phrase.
Oui, deuxième phrase. Il a rapporté. Alors, il, il, a, c'est le a sans accent, puisque c'est le verbe avoir, l'auxiliaire avoir, et rapporté. R-A-2-P-O-R-T. Alors, et ou R.
Eh bien, on peut dire il a vendu, donc.
Il a vendu. Donc, rapporté, et E accent aigu, effectivement. Des tomates, alors là, ça s'écrit comme ça se prononce, D-E-S et tomates, on n'oublie pas le S du pluriel. Et, c'est le E-E-T de la conjonction de coordination. Des concombres, donc concombre, C-O-N, C-O-M. Pourquoi le M, puisqu'on a le B. C-O-N-C-O-M-B-R-E et un S. On se rappelle de la règle du M devant M-B-E-T. Voilà pour la deuxième phrase.
Mais peut-être qu'on va s'arrêter là et on va laisser les enfants relire leur dictée et bien se poser à chaque fois la question « vendre, vendu » à chaque fois qu'ils entendent le son « et ». Et puis, ils peuvent nous envoyer leur dictée, bien sûr. Et
oui, très bien.
Voilà, on vérifiera si on doit leur mettre 20 sur 20.
C'est ça, ça fait tout beaucoup, le 20 sur 20, mais on verra s'ils ont tout bon. En tout cas,
alors,
ils ont bien compris cette leçon.
Ou alors A++, c'est mieux ?
A++, ou alors des petites couleurs, du vert quand c'est un peu vert et du rouge s'il y a beaucoup de fautes.
Voilà, donc on veut des dictées avec beaucoup de vert ensuite. Merci beaucoup Laurence d'avoir été avec nous aujourd'hui, de nous avoir donné cette leçon ludique sur l'utilisation, sur comment écrire correctement le son « et » E accent aigu ou « et » ER. Donc voilà, c'est un petit problème qui a beaucoup handicaper les élèves depuis toujours, alors qu'en fait il suffit de toujours penser à cette petite astuce remplacée par le verbe vendre ou le verbe courir par exemple. Merci beaucoup Laurence et je vous dis à bientôt.
Avec plaisir, à bientôt Chantal.
Au revoir.
C'est elle qui me faut, je dois la présenter à Yema. M'aimeras-tu quand je serai fauché comme à l'ancienne? Soit moi Elvira, soit moi Cardi, je serai ton off. C'est plein de choses qu'on ne dira pas pour peur de faire foirer les projets. C'est nous deux ou bien rien jusqu'à la fin. Y'a trop de jaloux, trop de requins dans le grand bain. C'est nous deux ou bien rien jusqu'à la fin. Hey, y'a trop de jaloux, trop de requins dans le grand bain. Bébé veut des marmots avec je l'emmène à la mairie. Je veux le blégué plein de lambeaux, j'suis trop cramé sur Paris. Hey. Bébé dans la main gauche, j'ai le diamant que tu mérites. Regarde bien l'ombre et qui va changer ta vie. Parce que ta vie sera probablement meilleure à mes côtés. Faut pas que tu doutes, dis-moi combien fois de zéro pour te doter. Et je te les donnerai. Je peux donner sans même sentir que j'ai donné. Moi j'ai charbonné pour éviter de bégayer. Il me faut, je dois la présenter à Yéma. M'aimeras-tu quand je serai fauché comme à l'ancienne? Soit ma Elvira, soit ma Cardi, je serai ton off. C'est plein de choses qu'on dira pas par peur de faire foirer les projets. C'est nous deux ou bien rien jusqu'à la fin.
Jusqu'à la fin.
Y'a trop de jaloux, trop de requins dans le grand bain.
Jaloux, trop de requins dans le grand bain.
C'est nous deux ou bien rien jusqu'à la fin. Oh, y'a trop de jaloux, trop de requins dans le grand bain. Ferais disparaître des soucis comme si j'étais Copperfield. Bébé, j'ai pris rendez-vous chez ton père pour lui demander la main de sa fille. Hey, on fait les choses dans les règles, mais faudra toujours qu'on s'explique. Ils parleront, ouais, ils nous veulent du mal, mais bon. J'ai mauvais piqué ton cœur et tu sais que je suis trop précis. Tes principes et tes valeurs, tu fais partie de ma famille. Ouais, on fait les choses dans les règles, mais faudra toujours qu'on s'explique. Ils parleront, ils nous veulent du mal, mais bon.
Je sais qu'ils
qu'ils parleront, parleront jusqu'à la gorge séchée. T'inquiète-toi, je prends les coups, mais faudra bien t'accrocher. On peut s'en aller, se barrer, mais on va rester ici. On ne dépendra pas des autres pour continuer.
C'est elle qui me faut, je dois la présenter à Yem. M'aimeras-tu quand je serai fauché comme à l'ancienne? Soit moi Elvira, soit moi Cardi, je serai ton off. C'est plein de choses qu'on ne dira pas pour peur de faire foirer les projets. C'est nous deux pour bien rien jusqu'à la fin. Y'a trop de jaloux, trop de requins dans le grand bain. C'est nous deux ou bien rien jusqu'à la fin. Y'a trop de jaloux, trop de requins dans le grand bain.
C'est elle qu'il me faut, je dois la présenter à Yema. M'aimeras-tu quand je serai fauché comme à l'ancienne? Soit ma Elvira, soit ma Cardi, je serai ton off. C'est plein de choses qu'on dira pas par peur de faire foirer les projets. C'est nous deux ou bien rien jusqu'à la fin. Y'a trop de jaloux, trop de requins dans le grand
bain. Trop de jaloux, trop de requins dans le grand bain.
C'est nous deux ou bien rien jusqu'à la fin.
Oh,
y'a trop de jaloux, trop de requins dans le grand bain.
Dans le grand bain.
Grand Bain, Dadju et Nino sur RFI, vous écoutez 7 milliards de voisins, l'école à la radio, c'est l'heure de la récré.
Je m'appelle Nino, je vais inventer une histoire.
Il était une fois...
Djou et le pêcheur. Il était une fois un pêcheur qui vivait au bord d'un fleuve. Toute la journée, il pêchait à la ligne ou au filet, mais prenait aussi le gibier, au collet ou dans les pièges. Un jour, lorsqu'il était en train de pêcher à la ligne, un gros poisson mordit. Quelle belle prise ! Se félicita le pêcheur. Il tira de toutes ses forces et sortit de l'eau l'esprit Djou-Djou. Celui-ci tenait une énorme hache à la main et riait comme un démon. Épouvanté, le pêcheur arriva tout juste à articuler « Que fais-tu ici ?» Djou-Djou rit de plus belle.
« J'ai voulu juste t'agacer un peu !»
Lorsque le pêcheur comprit que Djou-Djou n'était pas le monstre féroce pour lequel il le prenait, mais plutôt un farceur, il prit son courage à deux mains. « Alors, ne recommence plus. À la place du gros poisson que j'attendais, c'est toi que j'ai pêché. Au lieu de m'aider, tu viens jouer les troubles faites. »«
Je ne vois pas pourquoi je devrais t'aider. »
Le pêcheur toisa Djou-Djou et conclut. « Tu as raison. Comment pourrais-tu m'aider ?» Tu as autant de force que la vapeur qui sort d'une marmite. Tu tiens à peine sur tes jambes. Djou-Djou se vexa.
Moi, j'ai autant de force que la vapeur au-dessus d'une marmite. Viens, nous allons mesurer nos forces.
D'accord. Au bout d'un moment de réflexion, Djou-Djou décida.
Voyons qui de nous deux lancera cette hache le plus haut.
Il regarda le ciel et scruta les environs avant de lancer la hache en l'air. Le pêcheur voulut savoir. « Qu'as-tu à regarder ainsi autour de toi ?»«
Je ne voudrais pas que la hache me retombe sur la tête !»
C'est alors que la hache retomba dans le fleuve, soulevant des trombes d'eau qui vinrent arroser les deux rives. Djou-Djou, qui avait plongé pour récupérer sa hache, n'émergea qu'au bout d'un bon moment.
« Ah, j'ai eu du mal à la dégager !» Elle s'était enfoncée profondément dans le fond de la rivière.
Il tendit sa hache au pêcheur.
À toi de lancer.
Le pêcheur, qui avait déjà bien du mal à la soulever, déclara.
Je n'ai même pas besoin de regarder autour de moi. Une fois que je l'aurai lancée, elle ira se ficher tout droit dans le ciel et ne retombera plus.
Djou-Djou prit peur.
Attends! Ne la lance pas, ce serait dommage de perdre une si belle hache. Faisons plutôt une course à pied. le pêcheur fut d'accord. Courons jusqu'au bout de ce sentier que les antilopes empruntent pour aller à l'abreuvoir. Il avait creusé un trou dans ce sentier et l'avait couvert avec des branches, espérant y piéger une antilope imprudente. Juju s'élança et tomba dans le trou. Le temps qu'il mit à en sortir permit au pêcheur d'arriver au bout du sentier.
« Tu as encore perdu » rit-il.
« Veux-tu que nous continuions à mesurer nos forces ?»«
Je veux bien, mais cette fois, c'est à toi de choisir le mode de compétition que tu préfères.
Nous allons pêcher et nous verrons bien qui de nous deux prendra le plus de poissons. » Le pêcheur prêta au stupide Juju une canne et ils se mirent à pêcher. Juju n'avait encore jamais pêché, si bien qu'il n'arrêtait pas de courir au bord de l'eau, tandis que le pêcheur sortait des poissons de l'eau l'un après l'autre. «
Bon joueur !» le pêcheur lui conseilla.
« Tiens-toi tranquille, sinon tu vas effrayer les poissons et tu n'attraperas rien du tout. »«
Je ne peux pas rester sans bouger !» répondit Juju. « Il faut que je coure sans relâche, ou au moins que je remue. » !»«
Et dans ce cas, il vaut mieux que je t'attache à un arbre. » Juju acquiesça.
« Oh, d'accord, mais attache-moi solidement !»
Le pêcheur l'attacha à un arbre qui poussait au bord de l'eau en serrant la corde tant qu'il put. Bien qu'il restât sans bouger, Juju ne prit pas de poisson. À la fin, il en eut assez.
« Ça suffit ! Détache-moi »
« T'avoues-tu vaincu ?» questionna le pêcheur.
« Oui, j'ai perdu, mais détache-moi ! Pour moi, c'est une terrible épreuve de rester ainsi, sans bouger !»
Le pêcheur ne l'entendait pas de cette oreille. « Non, je ne te détacherai pas. Tu en profiterais pour m'importuner encore. »«
Je ne t'ennuierai plus jamais !»
promit Juju. « Est-ce bien vrai ?»«
Parole de Juju !»«
Et tu rabattras le poisson dans mes filets ?»«
Oui !»«
Et le gibier dans mes pièges ?»«
Oui !» Oui, oui, mais détache-moi ! Pleurait Juju. Il faut que je cours, que je remue un peu !
Le pêcheur délivra Juju qui, depuis ce jour, rabattit le poisson dans ses filets et le gibier dans ses pièges. Les villageois qui lui achetaient son poisson et son gibier furent consternés par l'abondance de ses prises. Le pêcheur devint un homme riche et important, car grâce à sa ruse, il avait réussi à asservir le fougueux Juju.
Juju et le pêcheur, un conte mandingue de tradition orale raconté par la comédienne Héloïse Oria. Je vous lis encore quelques messages que nous avons reçus. Ibrahima, je suis à Dakar au Sénégal et je suis en classe de 6e. J'aime beaucoup l'émission, notamment les cours de maths, mais surtout les contes. Alors j'aimerais être toujours avec vous. Merci beaucoup. Crépin de Yaoundé, je suis toujours à l'écoute de votre émission et ça m'aide à me rappeler de certaines notions que je n'avais pas bien assimilées au primaire. J'avoue que grâce à vous, je m'améliore dans mon lieu de travail. Belle initiative de votre part. Zeynab de Cotonou, Zeynab a 12 ans. En vacances, on s'ennuie trop, mais avec 7 milliards de voisins, c'est vraiment génial. Je remercie tout le personnel de l'éducation qui trouve du temps pour nous donner des cours, et aussi Emmanuel et ses collègues.
7 milliards de voisins, on est ensemble.
On retrouve maintenant la psychopédagogue Joëlle Alarcon. Bonjour.
Bonjour Chantal.
Comment encourager et favoriser les efforts de mon enfant ? C'est le thème de votre chronique aujourd'hui. Pourquoi est-ce que l'encouragement passe par le regard que le parent porte sur son enfant, Joëlle ?
Comme j'en avais parlé dans une chronique précédente, je crois qu'il est important pour tous les parents et aussi les enseignants, plus globalement tous les éducateurs, de se souvenir de l'effet Pygmalion. C'était l'histoire d'un test qui avait été mené aux États-Unis dans les années 60, dans lequel on s'était aperçu que lorsque les enseignants croyaient que leurs élèves étaient doués, on avait truqué les résultats en fait, hein, quand ils croyaient qu'ils étaient doués, tout simplement, ils changeaient de regard, ils changeaient de posture, d'agissement, et effectivement rendait, en fait, malgré eux, quelque part, les enfants meilleurs et les apprenants avaient de meilleurs résultats. En s'inspirant de cette histoire, on peut vraiment recalquer ça à la maison en se disant qu'en fait, quand on regarde le potentiel, quand on regarde ce qui marche, ce qui réussit, eh bien, finalement, on encourage l'enfant à développer tout son savoir et à donner le meilleur de lui-même.
Ça veut dire que le point essentiel, c'est qu'il faut insister sur le positif, sur les réussites de l'enfant.
Exactement. On a tendance, mais c'est aussi parce qu'on a appris ça. Hein. C'est comme ça aussi qu'on s'est comporté avec nous. On a tendance à porter notre regard sur ce qui ne marche pas, sur ce qui manque, sur ce qui a raté, sur les efforts à fournir. Alors certes, il faut le faire, mais peut-être dans un deuxième temps. L'idée, c'est vraiment, au contraire, de porter son regard sur ce qui réussit. Et c'est le point de départ de beaucoup de pédagogues, de féliciter avant de travailler sur ce qui marche moins bien. Par exemple, votre enfant revient avec une note moyenne, un 9 sur 20 par exemple, on va d'abord se focaliser sur « Ok, comment tu as fait pour marquer ces 9 points ? Quelle stratégie tu as mis en place ?» Et ensuite, on va porter son regard sur les 11 points manquants.
Et vous recommandez de faire à l'enfant des compliments descriptifs, c'est-à-dire ?
Alors j'entends beaucoup depuis la grande mode là, de la pédagogie positive, des parents qui encouragent dans le sens où ils félicitent en permanence le moindre petit acte. J'ai même des enseignants qui me disent « Ah, bon, alors moi, je fais des roulades à chaque fois qu'un jeune réussit à faire quelque chose. » Et je crois qu'en fait, il ne s'agit pas d'en rajouter, il ne s'agit pas d'être à ce point dans la félicitation, mais d'être juste. Parce que l'enfant sait quand ça sonne faux. Et ça peut le vexer. Donc quand je dis être juste, c'est par exemple donner des termes précis sur les efforts qui ont été fournis. Tu peux être fier de toi, tu as terminé ton travail dans les temps, bravo, c'est la première fois que tu fais une division à virgule sans te tromper. Regarde, tu as réussi à apprendre ta leçon d'histoire qui te paraissait si difficile. Il y a plein d'exemples comme ça, mais qui permettent aussi de développer notre vocabulaire de la félicitation, du compliment, mais qui décrivent très précisément ce qui a marché.
Mais est-ce que à vouloir toujours voir le côté positif des choses et à quand même féliciter l'enfant, etc., etc., le valoriser, est-ce qu'on ne court pas le risque d'avoir ensuite un enfant un peu égocentrique ou nombriliste qui se prendrait pour la huitième merveille du monde ?
Je ne crois pas. Au contraire, je constate plutôt l'inverse. Et c'est pour ça que je mets en garde par rapport à l'exagération. Oh, bravo, super, génial, t'es le meilleur à chaque fois que l'enfant fait quelque chose. Parce que finalement, l'effet pervers qui est induit, c'est que l'enfant, soit il attend en permanence cette reconnaissance, donc du coup, il n'agit plus que pour ça, et peut perdre confiance en lui finalement, ou finalement jamais acquérir la confiance nécessaire parce qu'il est toujours dans la projection de ce que l'autre va penser de lui. Et ça peut être contre-productif, c'est-à-dire qu'on a des enfants qui du coup n'ont pas confiance en eux.
Donc il faut trouver un peu l'équilibre.
Exactement, c'est pour ça que je disais, dans un premier temps, le complément descriptif, où on n'est pas dans « bravo, génial, tu es le meilleur ». Par contre, on cite les choses. C'est-à-dire, je constate que tu as rangé ta chambre, tu as fait preuve de beaucoup d'organisation, je suis satisfaite. Mais on donne des pistes d'amélioration, et des pistes d'amélioration concrètes. Pour l'inciter à poursuivre ses efforts, on peut lui donner voilà, des choses très précises pour qu'il développe encore son potentiel. Par exemple, maintenant, tu penses que tu pourrais apprendre cette poésie avec la même technique que ta leçon d'histoire. Je constate que tu as rangé ta chambre, mais tu t'es concentré surtout sur le bureau. Peut-être que tu pourrais ranger aussi tous les jouets qu'il y a par terre. Et donner comme ça des choses concrètes, parce que finalement, ce qui nous paraît évident, nous, ne l'est pas forcément pour l'enfant, surtout en fonction des âges. Et l'idée, c'est d'aller l'inciter à chercher ce sentiment de fierté que nous aimons tous, ce sentiment de satisfaction du travail accompli. Et plus il va être accro à ça, plus il va se donner, il va se motiver dans les apprentissages.
En revanche, le système de la carotte, par exemple, si tu obtiens telle note ou si tu ranges ta chambre, tu auras le droit de faire ceci ou cela, je suppose que ce n'est pas forcément le meilleur système qui soit. ou la meilleure méthode qui soit ?
Non, disons qu'on est. Je comprends qu'à un moment donné, on puisse tomber dans ce système-là, qui est pas loin du chantage quand même. Mais il faut l'éviter parce qu'on va donner l'impression à l'enfant qu'il ne fait des choses que pour obtenir d'autres choses. On entretient ce système dans lequel on est entre la récompense et la punition qui fait perdre le sens des choses. C'est-à-dire, on peut en arriver du coup à l'écueil que l'on rencontre dans la sécurité routière où c'est par peur de prendre une amende que l'on ne va pas faire d'excès de vitesse, alors qu'en vrai, ce n'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est la sécurité, la vie, limiter les accidents. Et ça vient de l'enfance aussi, où on a été habitué à ne pas faire des choses mal, entre guillemets, par peur d'être puni, ou à faire des choses bien en quête d'une récompense. Donc, on s'imagine qu'on va toujours en avoir une. Donc, ça peut créer beaucoup de frustration quand, par exemple, on tombe sur un enseignant qui note sévèrement.
Donc, ça veut dire qu'il faut que l'enfant se sente responsable, qu'ils sentent que ses parents investissent leur confiance en lui, et donc du coup, il répond par le sens de la responsabilité.
Oui, par le sens de la responsabilité et par oser dire quand il ne sait pas, oser dire quand il ne comprend pas. Parce que s'il sent qu'en fait il a un parent bienveillant et juste, il va s'autoriser à dire quand il ne sait pas. Et c'est vrai que donner du sens aux apprentissages, créer de la motivation à travers le plaisir d'apprendre, le plaisir d'être satisfait de son travail, prend un peu plus de temps que le système du chantage qui est quasiment immédiat. Mais il est plus solide, il est plus durable et il est plus juste.
Bien, merci beaucoup Joël Alarcon. On peut vous retrouver sur votre page Facebook, facebook.com/lejardinpédagogiquemontpellier, tout attaché. Merci à toute l'équipe qui m'a aidé à préparer cette émission aujourd'hui. Cécile Lavolo, Sigrid Azéroal, Romain Dubrac et ici en studio avec moi Nicolas Benita. Lundi, vous retrouverez l'enseignante Marie-Christine Aubin qui nous fera réviser les règles de ponctuation. Vous pouvez réécouter cette émission sur notre site internet rfi.fr ou en podcast sur votre smartphone avec l'application Pure Radio. Bon week-end à tous, à lundi, et d'ici là, portez-vous bien.
Sept milliards de voisins, c'est fini.